À la une, ce nouveau rebondissement dans la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa, beaucoup d'affaires au tribunal administratif, et enfin du sport avec le gazon du stade de Ganivet qui colle au crampon. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc avec ce nouveau rebondissement dans le feuilleton de la concession de l'aéroport.
Oui, vous le savez, l'État a lancé un appel à candidature pour gérer l'aéroport de Tahiti-Faa. La recherche d'un concessionnaire, ça fait plusieurs années que ça dure avec des recours, des procédures, de nouveaux appels à candidature. Bref, et cette fois, c'est à quelques heures de la clôture des candidatures que l'État a envoyé un communiqué hier. Le Haut Commissariat a annoncé refuser la constitution du groupement d'intérêt public Motu Tahiti. Ce GIP avait été créé en décembre par les communes de Faa, Paya, Tevaiuta et Hitia Otera pour candidater à la gestion de l'aéroport et concurrencer les offres d'EGIS-CCSM et celles de Vinci Airports. Le GIP avait demandé et obtenu de l'État un report de la date limite accordé par souci de garantir une saine concurrence et pour instruire rapidement la demande de création du GIP, avait expliqué l'État, mais cette instruction a rencontré deux obstacles, Caroline Perdry.
Le premier obstacle, c'est la loi organique selon laquelle les communes de Polynésie française ne disposent d'aucune compétence leur permettant de gérer un aéroport. Un obstacle que Anthony Géros a tenté de lever en déposant, mais un peu tard, vendredi dernier, une proposition de loi du pays pour étendre la compétence économique des communes. Trop tard pour effectuer dans les temps le parcours législatif obligatoire, CESEC, commission, séance plénière.
Et puis il y a un autre problème, le haut commissaire parle aussi des faiblesses du dossier.
C'est le second obstacle. Malgré des échanges pour le retravailler, le représentant de l'État estime que, je cite, « le dossier de constitution du GIP n'apporte toujours pas les garanties administratives et financières nécessaires pour assurer efficacement la gestion de cette infrastructure stratégique. Une organisation et des statuts juridiques non conformes, aucun membre fondateur justifiant d'une expérience de gestion aéroportuaire, aucun partenaire financier capable d'assurer les travaux nécessaires pendant la durée de la concession, ni de gérer la plateforme aéroportuaire. On rappelle que la concession court sur 40 ans et représente une cinquantaine de milliards d'investissements.
Reste la possibilité pour le groupement Motu Tahiti de contester la décision du haut commissaire devant le tribunal administratif, mais pour l'instant, le GIP n'a pas d'existence légale puisque l'État refuse de signer son acte de naissance. Et pendant ce temps, l'instruction des deux autres dossiers, ceux de EGIS-CCISM et Vinci Airports, devrait commencer. Le communiqué du Haussaria se termine en rappelant que l'attribution de cette concession de l'aéroport reste prévue pour le premier semestre 2027.
On reparle d'Anthony Géros avec l'ouverture du colloque sur la vie chère à l'Assemblée.
Il s'appuie notamment sur les travaux des autorités de concurrence de la région Pacifique. Le président de l'Assemblée espère en sortir des préconisations et des propositions de loi du pays. Anthony Géros sera notre invité ce matin. Nous reviendrons avec lui sur tous ces sujets. Ce sera à suivre en direct sur Radio 1 et Thiers FM et notre page Facebook Radio 1 à 11h30.
Et la vie chère sera aussi au cœur de cet anniversaire.
Oui, celui de l'autorité polynésienne de la concurrence. 10 ans que la loi existe à Tahiti et pour fêter ça, l'APC a réuni plusieurs pointures du domaine. Objectif, faire un point d'étape sur l'action de l'autorité de la concurrence au Fénois et examiner encore la question de la cherté de la vie. La présidente Joanne Père défend aussi leur travail avec des décisions notables dans le secteur du transport maritime, des télécoms, des pompes funèbres et de la grande distribution. Elle regrette toutefois le manque de moyens financiers et humains.
Il est 7h04, à la une de l'actualité ce matin, beaucoup d'affaires au tribunal administratif aussi.
Oui, avec d'abord ce dossier très attendu des rythmes scolaires. Le syndicat de la fonction publique a attaqué l'ensemble des arrêtés sur les nouveaux horaires scolaires. Il reproche au pays de ne pas avoir consulté les partenaires sociaux. Un problème de forme confirmé par le rapporteur public qui a demandé hier au tribunal d'annuler en bloc les nouveaux horaires applicables depuis le mois d'août. Du côté du pays, on a mis en avant la consultation publique lancée par le ministère. Et surtout que 7 mois après, les nouveaux rythmes sont bien lancés et ils ont eu des effets bénéfiques sur les enfants, mais aussi sur les routes. Bref, le pays est satisfait, mais le syndicat de la fonction publique, pas du tout.
Heureusement, je dirais qu'après 7 mois, il y a des adaptations qui ont été trouvées. Mais ces adaptations-là, il y a 7 mois que les discussions auraient dû être trouvées. Et ce qui est quand même dramatique dans ce dossier-là, c'est qu'il y avait la possibilité d'en faire un véritable projet éducationnel. C'est-à-dire de mettre autour de la table des institutions comme les communes, le gouvernement, les associations de parents d'élèves et se dire, voilà, on a un temps supplémentaire qui est accordé aux élèves, autrement que dans le cadre scolaire, qu'est-ce qu'on en fait ?
Que faire donc des temps dégagés par ces nouveaux horaires? Comment mieux s'organiser au sein des écoles? Autant de questions que le secrétaire général du SFP, Olivier Champion, que vous venez d'entendre, veut voir poser dans une grande consultation. Si les rythmes scolaires sont annulés, la théorie voudrait que les écoles reviennent aux horaires de l'année dernière. Le syndicat de la fonction publique assume son action et estime que c'est le pays qui sera responsable des conséquences.
Tribunal toujours avec cette affaire concernant le conseil municipal de Maupiti.
Il s'agit du recours déposé par Mathilda David. L'ancienne quatrième adjointe de Woodingson, Raou Faore, avait été évincée de ses fonctions en septembre dernier en cause des désaccords avec le Tavana. Elle dénonçait devant les juges la façon dont s'était passé le vote pour mettre fin à ses fonctions. Le conseil municipal avait été invité à voter à main levée. D'importantes pressions pesaient sur les autres élus d'après elle. Mais ce ne sont pas ses arguments qui ont fait mouche auprès du rapporteur public, mais plutôt ceux du Haut Commissariat qui étaient aussi requérants dans ce dossier, les précisions de Charlie René.
Oui, les services de l'État sont chargés du contrôle de l'égalité des actes des communes. Et dans les délibérations votées le 13 septembre à Maupiti, il y avait un problème de poids, ou plutôt un problème de genre. Le remplaçant qui a été choisi pour succéder à Mathilda David, c'est Stéphane Pawiri, un homme. Or, dans les communes de plus de 1000 habitants, et Maupiti est juste au-dessus de la barre, les listes d'adjoints doivent être paritaires. Une femme évincée doit donc être remplacée par une autre femme. Et tant pis si Stéphane Pawiri était le seul en lice pour le remplacement. En l'absence de candidate, le siège d'adjoint aurait dû rester vacant, Lucie.
Voilà pour les conclusions du rapporteur public. Les juges, eux, donneront leur analyse de la question le 15 avril prochain.
Et le 15 avril, on parlera aussi de télécom et portabilité.
Un sujet qui est au centre d'un feuilleton juridique depuis déjà plusieurs années. La portabilité, c'est la possibilité pour les abonnés mobiles de changer d'opérateur en gardant leur numéro, y compris le 87, 88 ou 89. C'est un droit en Europe depuis bien longtemps et c'est dans la loi polynésienne depuis 2013. Il a fallu attendre des recours de Viti pour que le gouvernement prenne des arrêtés d'application début 2024. La portabilité est donc censée être opérationnelle depuis le 1er septembre, mais ce n'est toujours pas le cas et ça pourrait encore traîner, Charlie René.
C'est en tout cas ce que suggère Pacific Mobile Telecom, qui a formé un recours contre les arrêtés d'application de 2024. Alors pas vraiment sur le fond, même si la société du groupe Moox qui exploite le réseau Vodafone voit aujourd'hui d'un mauvais œil cette portabilité qui pourrait faire grimper son petit concurrent Viti. C'est plutôt le délai imparti aux opérateurs pour s'exécuter qui était visé. Et la meilleure preuve, c'est que ce délai réglementaire est déjà dépassé depuis plus de 6 mois. Alors pourquoi? Eh bien parce que la portabilité, c'est long et coûteux à mettre en place. Il faut notamment créer une structure neutre qui détient les informations de chaque opérateur et rebascule les appels du bon côté. C'est comme ça que ça marche en métropole et la structure en question, l'ANFP, estime que ça prendrait 1 an et demi, voire 2 ans pour s'étendre à la Polynésie. Le changement d'opérateur en gardant son numéro, c'est donc a priori pas pour tout de suite.
Voilà, c'est en tout cas le discours de Vodafone. Le rapporteur public n'a pas vraiment été séduit par ses arguments et a conclu au rejet de la requête, mais surtout, Viti, fer de lance de cette portabilité depuis quelques années, n'a pas baissé les armes. En attendant la création de cette structure neutre, les opérateurs pourraient mettre en œuvre la portabilité indirecte. Ça veut dire qu'en cas de changement d'opérateur par un client, le prestataire d'origine se charge de rebasculer automatiquement ses appels sur le concurrent. Et c'est effectivement comme ça que ça a longtemps marché en France et ça ne coûterait presque rien, explique Viti. L'opérateur accuse ses concurrents Vodafone comme l'OPT de mauvaise volonté, voire de manœuvres dilatoires dans ce dossier.
De l'actualité sportive maintenant avec un stade pas très pratique.
Et non, le gazon colle aux crampons des joueurs de Tefana, c'est même devenu un cauchemar. Les granulats censés stabiliser la surface du gazon du stade Ganivet se décompose sous la chaleur et la situation va en s'empirant selon les sportifs qui se plaignent d'une patte verte qui s'accroche aux crampons et dont ils ont du mal à se débarrasser. Jusque-là, la situation faisait l'objet de discussions aux abords du stade, mais depuis le week-end dernier, les photos se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Et la mairie envisage plusieurs solutions, dont celle de faire des travaux payés en partie par le pays. Il s'agirait d'un cofinancement dans le cadre des Jeux du Pacifique, car le stade Ganivet fait partie des structures retenues pour Tahiti 2027.
Et en parlant de foot, c'est samedi que les Toa Aito jouent leur ticket pour la Coupe du Monde 2026.
Oui, la sélection tahitienne est en Nouvelle-Zélande et va affronter la Nouvelle-Calédonie. S'ils gagnent, les Toa Aito seront qualifiés pour participer à la Coupe du Monde de foot en 2026. Le match est à suivre samedi à 16h. en direct sur TNTV.
Et un mot de culture pour finir, avis aux amateurs de jazz, de swing et de soul.
Il reste quelques places pour les deux concerts que donnera le Big Band de jazz du conservatoire mené par Frédéric Rossoni. Les musiciens de cet ensemble et 5 chanteuses et chanteurs invités vont reprendre les airs de la grande époque du jazz. Ce sera vendredi et samedi à 19h30 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 avec la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, c'est la météo avec Damien.